citoyen au quotidien sur RCN
avec la CLCV de Malzéville-Saint-Max.
Sylvie Gruy, Christian Saquet.
Bonjour chers auditeurs de RCN, bonjour Christian.
Bonjour Sylvie, bonjour Jean-Luc.
Voilà, nous voici réunis donc pour un nouveau numéro de Citoyens au quotidien, l'émission de la consommation, du logement et du cadre de vie. Alors aujourd'hui nous allons traiter de deux sujets importants, l'un sur le premier sur les incendies domestiques et le deuxième on refera un point concernant le contrôle du stationnement payant. Et le premier sujet, Christian, c'est toi qui l'aborde. Et tout d'abord, tu vas nous donner quelques chiffres justement concernant les incendies domestiques.
Oui, exactement. Il faut savoir que les incendies domestiques représentent l'une des principales menaces pour la sécurité des foyers. Mmh. En effet, chaque année, il y a 60 à 70 000 incendies qui conduisent à l'intervention des sapeurs-pompiers.
Donc ça veut dire qu'il y en a plus, mais que le reste, il n'y a pas besoin des pompiers.
Exactement. Alors, il cause de nombreuses pertes de vie humaine, des blessures graves et des dommages matériels importants et considérables. La plupart du temps, nombre d'entre eux auraient pu être évités par des mesures de prévention simples mais efficaces.
Alors, la première mesure simple, comme tu le dis, à adopter, c'est quoi ?
Eh bien, tout d'abord, il faut vérifier son installation électrique. Il est important de contrôler déjà la tension, parce qu'il y a du 220 volts et puis il y a du 380 volts. Et des fois, ça pose des problèmes.
Enfin, nos appartements sont quand même tous maintenant
équipés en 220.
Hein.
Il n'y a plus beaucoup de 380 dans les domiciles privés. Alors, une installation électrique non conforme est dangereuse et peut entraîner des risques d'incendie. Si vous, tout consommateur, locataire et autres, vous avez des doutes sur la qualité ou la vétusté de votre installation, eh bien vous devez faire appel à un professionnel.
Alors c'est vrai que ça a un coût, mais si on n'est pas électricien, eh bien vaut mieux remettre ça quand même entre les mains d'un spécialiste.
Exactement. Alors attention aux courts-circuits qui paraissent bénins. Des fois on dit « oh c'est pas grave, ça a sauté ». Et ne surchargez pas vos multiprises. On a l'habitude, là, sur les multiprises.
Oui, on peut arriver, on met une multiprise, puis pour avoir plus de place, on en met une deuxième.
Alors, ça surchauffe, et ça peut générer un incendie catastrophique. Alors, il y a un point habitat social.
Voilà.
Nombreux sont les bailleurs sociaux qui font vérifier l'installation par un professionnel avant la relocation d'un logement ou d'une maison.
Voilà, c'est vrai que c'est...
Il y a des gens qui habitent, déjà, il y en a qui habitent depuis 30 ans, 40 ans voilà. Même, dans des logements sociaux.
Mais là, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant chez les bailleurs sociaux. Le logement était reloué d'une fois sur l'autre. Et maintenant, c'est vrai qu'ils vérifient parce que, de toute façon, en plus, ça met... ne pas le vérifier, laisser un risque potentiel d'incendie, c'est aussi un risque de dégrader leur patrimoine. Donc, c'est vrai que c'est aussi pour ça.
Est-ce qu'ils contrôlent quand il y a des gens qui sont depuis 10 ans, 20 ans dans le logement ?
Alors, certains bailleurs ont prévu des contrats spécifiques qui vont être pour partie payés par les locataires, parce que ça, c'est quand même de la responsabilité du locataire de surveiller s'il y a un problème électrique. Donc, quand c'est prévu dans des contrats, effectivement, c'est vérifié. Mais ça n'empêche pas, quand même, que le locataire en place doit aussi s'assurer que le travail par le prestataire est bien fait. Parce que quelquefois, on le voit hein, pour d'autres prestations, par exemple le contrôle des robinetteries, où ça arrive quand même quelquefois que certains prestataires rentrent chez les locataires et puis demandent si tout va bien. Et puis si le locataire dit « bah oui, tout va bien », du coup le prestataire il vérifie rien du tout. Mais il marque qu'il a fait le travail quand même. Donc là, c'est important, et c'est important pour tous les contrôles qu'il doit y avoir, de laisser le prestataire faire son boulot. Et même si on peut se dire on n'a pas envie forcément que quelqu'un rentre chez nous, mais de le laisser faire son travail.
Alors la deuxième mesure qu'il faut adopter, c'est d'entretenir son équipement fonctionnant au gaz. Il faut faire entretenir la chaudière par un chauffagiste une fois par an. Il faut changer les tuyaux flexibles du gaz qui sont craquelés ou fissurés, ou dont la date de validité est dépassée. Entretenez vos brûleurs de la cuisinière, car les résidus gras peuvent prendre feu.
Voilà, c'est vrai que le gras, c'est...
Alors, concernant l'habitat social, c'est pareil, là, nombre de bailleurs sociaux prévoient des passages préventifs de prestataires, notamment pour les équipements gaz.
Donc les chaudières, les tuyaux flexibles, tout ça peut être vérifié.
Alors ce qui est important, c'est qu'il faut permettre l'accès au logement. Parce qu'il y a souvent des locataires qui bloquent.
Voilà, il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on rentre chez eux, quoi. De toute façon, même si on a un logement qui n'est pas bien rangé, le prestataire qui vient faire le contrôle, il ne viendra pas faire le ménage. Hein.
Exactement. Alors, si vous n'êtes pas présent lors du premier passage, la recommandation que nous, on peut faire sur LCV, faites le maximum pour être présent au suivant ou laissez vos clés à une personne de confiance.
Voilà. C'est vrai qu'on peut ne pas avoir forcément confiance à n'importe qui dans notre résidence, mais on peut avoir dans notre entourage, amis ou famille, quelqu'un en qui on a complètement confiance et qui sera présent pour faire lors de ce passage. Et puis, il y a aussi certains prestataires qui permettent, quand on n'a pas été là tout de suite, de prendre rendez-vous avec eux. C'est-à-dire que là, du coup, c'est nous qui voyons avec eux le moment où ça nous intéresse le mieux pour qu'ils passent, quoi.
Alors, il y a un troisième point qui est important, c'est qu'il faut contrôler la ventilation dans la cuisine. Ça veut dire qu'il faut nettoyer le plus souvent possible les filtres de la hotte aspirante, quand il y en a une. Remplacer les filtres aussi à charbon actif. Il y a des gens là, qui ont des filtres, ils font...
Et 20 ans après, c'est toujours les mêmes.
C'est toujours la même chose.
Donc du coup, c'est vrai que ça doit être moins efficace. Alors est-ce que tu as un autre conseil et pas des moindres?
Alors, il y a là le... Ce dernier, enfin pas, c'est pas le dernier,
non,
mais
c'est, pas le dernier,
c'est effectivement un conseil qui est vraiment extrêmement important. Il faut équiper votre logement de détecteur de fumée. Je dis, il faut que vous équipiez votre logement de détecteur de fumée, parce que là, je parle plus en direction du privé. Hein.
Ouais, mais le but, c'est quand même, enfin le but, il est le même. Avoir un DAF, puisque c'est les détecteurs de fumée, c'est ça. Des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée, c'est une obligation dans tous les logements. Et c'est pas pour rien.
C'est obligatoire.
Voilà.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la propagation des fumées précède celle des flammes. 80% des victimes d'incendie le sont par les fumées. C'est pour cela que les détecteurs avertisseurs autonomes de fumée, les DAF, ont été rendus obligatoires dans les logements, appartements, maisons ou autres. Hein. Attention! Lors de la pose, ils doivent être posés au plafond et pas contre un mur ou au-dessus d'une armoire.
Voilà, parce que il y a quelquefois des personnes qui se disent, voilà, j'ai acheté mon DAF, ben je le mets en route et tout, et je le pose, le pose sur une armoire ou sur un buffet, quoi.
Et il faut que ce soit placé aussi dans la bonne pièce. Faut pas le mettre dans la cuisine, par exemple.
Bah, c'est sûr que ouais, si on met dans la cuisine, ça va se déclencher à tout moment, parce que ça peut toujours arriver qu'on ait un peu de fumée, etc. Et c'est pas là, voilà. C'est là, il va nous enquiquiner plutôt que tout le reste. Et du coup, on va l'arrêter et on va le virer.
Alors, il faut aussi les dépoussiérer régulièrement et les tester une fois par mois, quand c'est possible.
Voilà, c'est... Bah, généralement,
il y a un petit bouton.
Il y a une pastille au milieu et on peut même dire de le tester même avec un manche à balai, parce que sachant que c'est au plafond, il faut quand même pouvoir y avoir accès.
Alors, attention. On ne retire pas les piles du DAF pour un autre usage.
Voilà.
J'en connais qui disent « Ah, ben, il n'y a plus de piles dans ma télécommande. » Alors, ils retirent...
Il y en a dans le DAF et je vais les mettre dans la télécommande. Non, le technicien, il rigole, mais c'est vrai, ça se voit.
Donc, attention à ça. Hein. Vérifiez que le détecteur fonctionne et que les piles sont bien dedans.
Voilà.
Alors, il y a un point habitat social.
Je pense que là, c'était important, je trouve, de faire ce point-là, parce que dans les logements sociaux, donc il y a bientôt 10 ans, lorsque les DAF ont été rendus obligatoires, les bailleurs ont soit remis les DAF aux locataires, donc les locataires étaient avertis, et ils étaient avertis qu'ils pouvaient venir récupérer un DAF. Généralement, c'était dans les agences, puisque les agences de proximité, bah, de par leur nom, sont plus proches des locataires que les autres, que le siège social, par exemple. Donc, soit ils pouvaient venir les récupérer donc, contre signature, après avoir les avoir prévenus, à charge pour le locataire, dans ce cas-là, de l'installer et de l'installer correctement. Soit le choix qui a été fait par d'autres bailleurs, ça a été de passer une commande auprès d'un prestataire avec l'achat par eux des DAF. Et les DAF étaient installés directement chez les locataires. Donc, il n'y avait pas besoin de se poser la question. Voilà, ils étaient carrément installés.
Alors maintenant ils, la plupart du temps, justement, dans l'habitat social, ils sont contrôlés lors du passage annuel pour ceux qui passent pour voir la VMC ou la robinetterie.
Voilà, généralement, c'est fait avec. Quoi.
Alors, chez d'autres, lorsque ce contrôle systématique n'est pas prévu, il est demandé aux locataires de les vérifier tous les mois. Je pense que... Ouais, je ne suis pas certain que ça se fasse. En tout état de cause...
Je peux être honnête, hein. Je ne l'ai jamais fait.
C'est ça.
C'est un mauvais exemple.
Alors, en tout état de cause, lors de la relocation d'un logement, celui-ci doit être équipé d'un DAF qui fonctionne. Le bailleur ne peut pas se justifier en disant « j'en avais installé une telle année ». Et au nouveau locataire de l'exiger. C'est aussi le locataire, mais la plupart du temps, les locataires, ils ne sont pas au courant. Hein.
Et surtout, c'est pour ça qu'on fait cette émission-là et qu'on les met au courant, justement, des DAF. C'est un équipement obligatoire. Et quand le propriétaire, alors que ce soit un propriétaire privé ou un bailleur social, alors les bailleurs sociaux sont quand même plus prudents.
Oui, hein. ils ont conscience de la responsabilité. Voilà. Et ils n'aiment pas bien quand ça brûle chez eux.
Hein. Voilà, ils n'aiment pas bien ça.
Alors, ce qui est important aussi, quand on entre dans un nouveau logement, que ce soit d'un privé ou chez un bailleur social, il faut vérifier sur l'état des lieux d'entrée qu'il est bien noté.
Voilà.
Mais il ne suffit pas suffisamment marqué présent dans l'état des lieux, il faut contrôler effectivement qu'il y a un DAF.
Voilà, et s'il n'y a pas de DAF, il faut faire supprimer la mention qui indiquerait qu'il est présent. Parce que là, si, c'est comme pour toutes les autres mentions d'état des lieux d'ailleurs, hein. À partir du moment où c'est écrit, ça vaut vérité, quoi.
Exactement.
Donc si c'est marqué qu'il y a un DAF et qu'il n'y en a pas, on ne pourra pas se retourner contre le propriétaire pour lui demander un DAF.
Alors actuellement, les bailleurs qui ont installé des DAF garantis 10 ans, donc avec des piles au lithium encastrées dans le DAF et non démontables, réfléchissent...
C'est vrai que c'est le choix qu'ont fait un grand nombre de bailleurs sociaux, comme ça au moins ils étaient sûrs que les piles ne seraient jamais démontées justement pour servir à autre chose.
Alors, ils réfléchissent à leur remplacement, certains semblant s'orienter vers une nouvelle installation chez l'ensemble des locataires. Là encore, pour la sécurité de tous, il faudra les laisser entrer à notre domicile.
Voilà, là c'est vrai qu'il y a... Voilà, moi j'ai contacté hier plusieurs bailleurs, et effectivement, bon, normalement je pense que ça arrive les 10 ans l'année prochaine, et c'est de voir donc soit pour trouver une entreprise qui va fournir les mêmes, etc. Et puis ce que m'expliquaient aussi les bailleurs par rapport à ça, par rapport au DAF, c'est que généralement, normalement même si on met un DAF qui est censé durer 10 ans, et qu'il ne dure pas 10 ans, quand on se rend compte qu'il ne fonctionne plus, c'est de contacter le bailleur pour qu'il le remplace. Parce que c'est aussi toujours important. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident quand même parce qu'à partir du moment où on met un DAF au plafond, il faut quand même avoir accès au plafond. Et si on est, une personne âgée, une personne à mobilité réduite, ou qu'on a simplement un problème de vertige ou de je ne sais trop, tout le monde n'est pas capable d'aller de réinstaller quelque chose au plafond, quoi. Donc voilà, de contacter en tout cas son bailleur. Et puis si vraiment c'est nous qui l'achetons, de faire quand même attention à ce qu'on achète. C'est comme pour tout. Un DAF qui va coûter 3 fois rien, c'est quand même 3 fois trop cher. Parce que s'il ne fonctionne pas...
Qui a le feu ?
Voilà.
Voilà.
Vaut mieux mettre un petit peu plus et puis avoir comme quelque chose qui va fonctionner ou quelque chose même qui sera peut-être garanti également.
Alors, un autre point, mais qui, je pense, concerne davantage le logement privé et les gens qui sont propriétaires aussi, hein, il faut faire ramener sa cheminée. Le conduit d'une cheminée doit être ramené au moins une fois par an, et c'est une condition essentielle pour activer la garantie incendie en cas de sinistre. Mmh. Les gens qui ne font pas ramener et qui ont un incendie chez eux, la compagnie d'assurance refusera la prise en compte des garanties. Alors là, c'est moi qui insiste. Méfiez-vous de l'utilisation des poêles à pétrole. Il arrive des incendies avec ces chauffages d'appoint à cause de personnes qui ont rempli la réserve de carburant par erreur avec de l'essence.
Voilà, et essence. On peut des fois se dire essence et pétrole. L'essence, ça vient du pétrole, donc pouf. Mais c'est pas pareil, quoi.
Non, et moi j'en parle en connaissance de cause. Parce que j'ai eu en Bretagne un locataire qui faisait de la musique, ils avaient un groupe électrogène, donc ils avaient
un poêle à
pétrole, mais ils avaient un jerrican pour mettre du carburant dans le
dans leur groupe électrogène.
Dans le groupe électrogène.
Et ils sont trompés.
Et il s'est planté et il a mis
et la maison l'a brûlé.
Il a mis de l'essence
dans le poêle à pétrole.
Dans le poêle à pétrole, il a allumé et ça a explosé et ça a brûlé. Lui, il a été aussi brûlé, mais bien brûlé. Mmh. Parce qu'il a fallu l'envoyer en hélicoptère
Oui, c'est vrai
à Villejuif. Donc, on en arrive aussi à... Il faut ranger les produits et les matériaux inflammables, c'est-à-dire les produits d'entretien, combustible, bombes aérosols, la peinture, les cartons ou encore les tissus dont la résistance au feu est faible. Ils doivent être impérativement stockés loin d'une source de chaleur. Et puis, un rappel aussi.
Voilà.
Si vous avez des enfants, rangez tout ce qui peut être créateur d'incendies, tels que briquets, allumettes, allume-gaz ou autres.
Oui, parce qu'ils peuvent des fois être très jeunes et puis savoir s'en servir quand
Les allumettes, hein, c'est...
Moi, j'ai le souvenir de mon fils qui a allumé, j'ai déjà dû le raconter, qui a allumé la bougie qui était dans une citrouille pour Halloween et il a posé le tout sur le canapé. Quand je suis arrivée dans le salon, ça m'a fait une drôle d'impression. Moi, je n'ai pas eu d'incendie, mais c'est vrai que ce n'était pas prévu. Et en plus, les allumettes n'étaient pas proches, étaient en hauteur, mais il a quand même été les chercher.
Alors, dans tous les cas, votre logement doit être équipé d'un système de chauffage. Eh bien, servez-vous de celui-ci plutôt que de le remplacer par un autre système d'appoint, donc on parle du poêle à pétrole, de chauffage électrique, le rendement sera sans doute meilleur et pas forcément plus cher.
Voilà. Alors là, on est un petit peu sorti des risques incendie par rapport à ce point, mais c'est vrai qu'on a quelquefois des locataires de parcs HLM dont les logements sont équipés de chaudières au gaz ou même simplement une chaudière collective, etc. et qui trouvent que c'est trop cher et qui du coup achètent des radiateurs d'appoint qui fonctionnent même à l'électricité. Eh bien, c'est pas forcément une bonne idée parce que on maîtrise pas non plus le même. C'est pas forcément le même rendement non plus, quoi. C'est pas le même matériau, c'est pas le même rendement. Et puis dire aussi par rapport au poêle à pétrole, c'est que le poêle à pétrole, bon, ça peut être dangereux parce que c'est des matières inflammables, etc. Mais en plus, ça ramène de l'humidité dans le logement.
Absolument.
Ça ramène aussi un peu de suie, etc. Et l'humidité dans le logement, c'est pas bon, et la suie non plus. Alors, et si malgré ces actes de prévention, un incendie se produit, quelle conduite devons-nous adopter?
Eh bien, dans tous les cas, la première chose à faire, c'est d'appeler les sapeurs-pompiers en composant le 18 ou le 112 pour leur permettre d'intervenir le plus rapidement possible.
Voilà. Et là, quand on a appelé les pompiers, on ne raccroche pas tout de suite. Il faut bien leur dire, prendre le temps de leur dire
Où c'est.
Où est l'incendie, parce qu'il y a des personnes qui appellent et qui raccrochent.
Ils raccrochent.
Les pompiers n'ont pas le temps de faire grand-chose. Donc une fois qu'on a fait ça, et si on est par exemple dans une pièce enfumée, qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien, on va commencer par placer un linge humide devant le nez et la bouche, et on va se baisser, parce que l'air frais se trouve près du sol.
Voilà, les fumées
Les
fumées ont tendance à monter.
Oui. Si vous devez ouvrir une porte, commencez par quelques centimètres sans chercher à passer la tête et en vous tenant prêt immédiatement à bien refermer la porte. En cas de présence de fumée, celles-ci vont être visibles dès la moindre ouverture. Alors, c'est un conseil, je dirais, qui est gratuit, mais je pense que quand il y a un incendie et qu'on est dans un immeuble où il y a un ascenseur, on peut être tenté de prendre l'ascenseur.
Là,
eh bien, ne prenez jamais l'ascenseur, car il y a l'incendie, il y a le feu. Si l'électricité est coupée, vous vous retrouveriez prisonnier.
Ouais, et puis c'est vrai que ça fait aussi une belle colonne pour permettre à la fumée de monter. Mais d'ailleurs, c'est écrit dans tous les ascenseurs qu'il ne faut pas l'utiliser s'il y a un incendie.
Oui, mais on ne lit pas ce qu'il y a écrit dans l'ascenseur.
Ouais, mais on devrait. On devrait surtout le lire avant.
Donc, préférez toujours l'escalier.
L'escalier. Et si, par exemple, le feu se déclare chez moi et que je ne peux pas l'éteindre immédiatement, qu'est-ce que je fais?
Eh bien, le premier réflexe, c'est évacuer les lieux. Il faut partir, il faut sortir.
Alors, c'est vrai qu'on peut être tenté de rester chez soi parce qu'on a toutes nos affaires, mais si l'incendie est incontrôlable, non seulement tout brûlera, mais nous avec, quoi.
Oui, on est, comme on disait la semaine dernière, ou il y a 15 jours, ceux qui veulent récupérer leur voiture alors que
on récupère
ça
pas,
va être inondé, ben non, c'est pareil, hein, on on évacue, on part, on ferme la porte de la pièce en feu et de la porte d'entrée du logement pour retarder la propagation du feu et des fumées. On sort par l'issue la plus proche et là, maintenant, une fois dehors, on appelle les pompiers.
Quand ça se déclare chez nous. Et quand ça se déclare dans une autre pièce, un autre logement ou dans les parties communes, par exemple, de l'immeuble, de la résidence.
Eh bien là...
Là, du coup, il ne faut pas sortir. Si j'ai le feu dans ma cage d'escalier...
Ouais, c'est ça. Là, la recommandation... C'est les pompiers qui donnent ces recommandations.
Ouais.
Restez chez vous. Les fumées dues à l'incendie risquent d'envahir les couloirs et les escaliers. Les fumées et le gaz chaud montent. Ouais. Ça rend les lieux impraticables et dangereux. Fermez la porte de votre logement ou de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Mouillez-la. Et calfeutrez-la avec un linge humide.
Donc c'est vrai que si on veut quelque chose, c'est de mettre quelque chose qui va être lourd, qui va bien tenir.
C'est ça.
Peut être une couverture, ça peut être n'importe quoi qui va bien tenir, qui va être bien trempé, qu'on va vraiment pouvoir mettre sur la porte.
Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va à la fenêtre et on se manifeste pour que les secours, quand ils vont arriver, ils vous voient.
Ouais.
C'est important ça.
Bah, c'est vrai que
faut pas se calfeutrer à l'intérieur.
Voilà. C'est vrai que s'ils ne nous voient pas, ils ne peuvent pas... Enfin voilà, s'il y a plusieurs appartements, si c'est un immeuble ou quoi que ce soit, il faut vraiment qu'ils puissent nous localiser.
Alors, ne cherchez surtout pas à évacuer à tout prix. Évitez les fumées.
Voilà.
Alors, un autre rappel ?
Ouais, ça c'est... Alors voilà, ça c'est moi parce que...
C'est toi, ça, c'est toi.
L'eau et l'électricité, ça ne fait pas bon ménage. Alors, donc, on ne jette pas de l'eau sur un appareil électrique en feu. Hein, parce qu'il y a quand même des gens qui le font. Donc ça, c'est pas bien. Et là, par contre, si on a un appareil électrique qui prend feu et que c'est pas lié à autre chose, bah, c'est de couper l'électricité au disjoncteur.
Exactement.
C'est la meilleure chose à faire. Alors, si ça continue après de brûler, bah, voilà, là, on fait autre chose. Mais de toute façon, le premier truc, là, c'est de couper l'électricité.
Et on ne fait pas ce qu'un jour, un jeune pompier m'avait dit. Moi, j'avais du 380 volts. Il y a l'incendie qui s'était déclaré. J'avais réussi à bouger le tableau en bois.
Ouais.
Et j'ai dit, quand les pompiers sont arrivés, là, j'ai dit, je crois que ça continue de se consumer. Je pense qu'il doit y avoir encore dessous là, de la braise. Mm-hmm. Et il y a un jeune pompier qui a dit, bah, il suffit de jeter un seau d'eau
c'est pas bon.
Sur le compteur.
Mais voilà, je
lui ai dit, je crois que c'est vraiment dangereux ce que vous me dites là.
Le
chef qui était à côté a dit, mais ça va pas, toi.
Peut-être qu'il n'est pas resté pompier finalement.
Peut-être. Alors, aussi, dans le cas où il y a une casserole qui a pris feu.
Et je pense notamment, ouais, alors maintenant peut-être moins, mais peut-être quand même avec les friteuses électriques, ça peut être la même chose.
Bien sûr.
Mais par exemple, une friteuse qui est sur une cuisinière ou simplement une casserole dans laquelle il y a de l'huile et que l'huile prend feu. C'est pareil, on ne balance pas de l'eau, quoi. Et on ne prend pas non plus la casserole pour l'emmener à l'évier.
Oui.
Parce que là, ce n'est pas une bonne idée. Là, c'est nous qui risquons de prendre feu,
alors,
quoi.
Dans les logements sociaux, c'est souvent que de l'électricité. Mais il y a encore des endroits où il y a du gaz.
Voilà.
Et là, donc, il ne faut pas... S'il y a quelque chose qui prend feu, il faut mettre une couverture dessus. Et il ne faut pas s'amuser à déplacer...
Voilà, on ne déplace rien, on laisse la casserole en place et on prend une couverture et on la... D'abord, la couverture, on la met devant soi en plus.
Oui.
Pour vraiment se protéger si jamais ça prenait plus feu, c'est de la mettre devant soi et de la poser sur la casserole, quoi, pour étouffer le feu. Parce qu'en fait, un feu, quand il n'y a plus d'oxygène pour l'alimenter, il s'arrête. Donc, en recouvrant, ça permet d'arrêter aussi le feu.
Exactement.
Voilà.
Alors, il y a... Un petit point que tu as ajouté, toi.
On n'est plus dans la prévention, là. Mais on est après, quand ça a pris feu, un petit point sur l'assurance habitation.
Oui, ben, justement, c'est une assurance qui est obligatoire. Ouais. Hein. D'ailleurs, normalement, vous devez prouver tous les ans que vous avez payé l'assurance, vous devez fournir une attestation d'assurance à votre bailleur, que ce soit un bailleur privé ou un bailleur social.
Et ça peut être un motif d'expulsion.
Exactement. Ça, les gens l'ignorent.
Voilà, des fois on se dit « Ah, mais si je paye mon loyer, on ne peut pas m'expulser. » Ben, ne pas assurer son logement, ça peut être un motif d'expulsion.
Alors, cette assurance, elle est prévue pour couvrir les dégâts que vous pourriez causer à autrui, mais également pour couvrir les dégâts causés dans votre logement. Et comme nous le conseillons toujours, vérifiez bien les conditions d'un contrat d'assurance avant de le signer.
Voilà. Donc bien
ça aussi, c'est important.
Bien lire ce qui est couvert. Et pareil, c'est... Alors, pour ça, tu parlais tout à l'heure par rapport à ce qui était exigé pour que la garantie soit faite. Je me demande même maintenant si le fait de ne pas avoir de DAF dans son logement, si ce n'est pas une cause aussi pour que la garantie ne marche pas. Voilà, donc je pense qu'on a fait, on a fait le tour. Hein, c'est comme d'habitude, si des personnes ont des questions, se posent encore des questions par rapport à ce sujet-là, ils peuvent nous écrire sur notre adresse mail qu'on redonnera tout à l'heure en fin d'émission. Et puis maintenant, on va se faire, parce que voilà, on a fait un beau sujet bien dense, on va se faire une pause musicale. Alors, on est à quelques jours seulement des 80 ans, donc du débarquement des Alliés en Normandie. Et moi, je voulais vous proposer d'écouter donc une chanson de d'Axel Bauer, donc le fils de Frank Bauer, qui fut le dernier speaker de Radio Londres. Et justement, le titre de la chanson, c'est « Ici Londres ». Et on y va.
Les gorilles bananes, l'archevêque. Le Vatican doit faire avec. Et la Valkyrie nous tamponne. Si l'on en croit Radio London. La girafe est dans les nuages. Les yeux brouillés par le carnage. Le serpent nous tire les sonnettes. Le facteur s'endort sous nos fenêtres. Ici, Radio Londres. On est armé pour vous faire de l'ombre. Ici, Radio Londres. En d'autres temps, on était plus résistants. En d'autres temps, on était plus résistants.
Les Français parlent aux Français.
Il pleut toujours sur Baker Street. Ce soir, Sherlock aura la frite. Sanglots de violon à l'automne. Si l'on en croit Radio London. Ici Radio Londres.
Ici Londres.
On est armé pour vous faire de l'ombre. Ici Radio Londres.
Ici Londres.
En d'autres temps on n'était plus résistant. En d'autres temps on n'était plus résistant.
160e jour de la lutte du peuple français pour sa libération.
À minuit sur le vélo de Tante Amélie, c'est l'heure où l'Angora ronronne. Si l'on en croit Radio London, ici Radio
Londres,
on est armé. Radio Londres. En d'autres temps, on n'était plus résistant. En d'autres temps, on n'était plus résistant. En d'autres temps, on était résistant.
Citoyen au quotidien sur RCN.
Sylvie Gruy, Christian Saquet.
Alors Sylvie, la dernière fois, nous avions déjà parlé du contrôle de stationnement payant.
Ouais.
Et donc aujourd'hui,
j'en reparle.
Tu veux, Tu veux nous donner des choses complémentaires?
Oui, parce qu'en fait, voilà, donc on en avait parlé dans l'émission du 20 mai. Et donc, ce contrôle est entré en vigueur le 3 juin 2024.
Oui, je croyais que c'était ça rentrait en vigueur le 1er juin. Mais...
Ouais, non, ce 3 juin, parce que le 3 juin était un lundi. Donc, en fait, voilà, depuis quelques jours, donc là, y a beaucoup de gens qui ont vu tourner cette voiture. On ne peut pas l'arrêter. Hein, c'est une voiture
blanche.
Moi,
je ne l'ai pas vu encore. Hein.
C'est une voiture blanche, elle a 4 caméras sur le toit. Quand tu la vois, tu sais que c'est elle. Hein. Donc, voilà, tout le monde beaucoup de monde a pu la voir, en tout cas. Bon, bien entendu, comme des fois, certaines choses, je traîne un peu et je n'ai pas fait les démarches. je n'ai pas encore fait les démarches pour m'inscrire en tant que personne titulaire d'une carte CMIS, alors carte mobilité inclusion stationnement. Donc, j'ai testé la prise de ticket gratuit à l'eurodateur.
Ça, c'est une bonne chose.
Voilà.
C'est...
Testez pour vous.
Oui, ouais, allons-y, testons.
Alors, j'ai fait le premier test le 3 juin, rue Gambetta, à Nancy. Donc, un eurodateur un petit peu vieux, sur lequel il est bien difficile de lire ce qui s'affiche. Parce qu'en fait, y a là où on peut, par exemple, peut payer, etc., où ça s'affiche la somme à payer, c'est une espèce de plastique. Là, c'est tout jauni. On a l'impression que ça a été brûlé. Je pense que c'est le soleil. Donc, on a du mal à voir derrière, hein. Et donc, il faut choisir son type de stationnement. Et là, on ne me propose que le stationnement normal ou le stationnement pour résident. Hein, le stationnement résident, c'est avec un tarif préférentiel. Donc là, pareil, il faut s'inscrire en mairie, faire savoir qu'on est résident de Nancy, etc.
Tu veux dire qu'il n'y a rien pour les PMR, hein ?
Il n'y a rien pour les PMR.
Ah ouais, d'accord.
Donc moi, je n'avais pas vu. Alors, c'est vrai qu'après, quand j'ai repris l'eurodateur en face, et puis j'ai regardé donc, les infos qui étaient présentes sur l'eurodateur. Et là, donc, j'ai trouvé un QR code. Donc, je le scanne avec mon smartphone, je suis dirigée, en étant sur mon smartphone, pardon, vers un site internet sur lequel donc, je dois renseigner le numéro de ma plaque d'immatriculation de mon véhicule, mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Alors, je ne sais plus s'il faut mettre son nom ou pas, enfin bref. Donc, ça va assez vite, hein, l'affaire est dans le sac, ça ne prend que une, deux minutes et je peux même récupérer un justificatif de paiement sur mon adresse mail.
Oui, mais alors là, ça ne s'adresse ça qu'à des personnes qui ont un smartphone, alors.
Voilà. Donc, le premier truc que je me suis dit, si j'ai pas de smartphone, j'ai pas de ticket. Et là, du coup, je risque de
faire... Ça devient pénible quand même. Hein.
Voilà. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont avoir un smartphone avec un scan, mais tout le monde n'en a pas. Quoi. Nom d'un chien, tout le monde n'a pas de smartphone. Et puis, alors, si les gens sont comme moi, qu'ils oublient quelquefois de prendre leur téléphone, et pareil, on ne peut rien faire.
Ah oui, alors ça, c'est le côté sympa, moi, de mon smartphone. Si je monte dans ma voiture, je n'ai pas le GPS.
Il est relié, mais moi, c'est encore... Ma voiture n'est pas un modèle aussi récent que le tien, donc je peux monter dans ma voiture.
Ouais, mais c'est bien, parce que quand je monte dans la voiture et puis que je n'ai pas le GPS, je sais que j'ai oublié mon téléphone.
Voilà. Donc voilà, ça, c'est le premier truc que j'ai vu. Donc, je ne peux pas m'enregistrer si je n'ai pas le smartphone avec le scan. Et deux, je peux rester sur place donc pendant 28 heures.
Ta voiture, tu peux la laisser là 28 heures.
J'ai vérifié sur le justificatif, c'est 28 heures. Alors, attention, il faut bien vérifier le numéro de la plaque d'immatriculation. Parce que moi, je ne l'ai pas fait. Et je dois avoir des gros doigts, donc je me suis plantée dans le numéro de la plaque d'immatriculation. Donc, j'ai quand même gardé le justificatif. J'espère que j'ai pas été contrôlée.
T'as gardé quoi? Ah oui, c'est
j'ai gardé le justificatif que j'ai récupéré sur mon adresse mail. Mais voilà, donc faut bien. Alors c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude, je ne sais pas.
Donc ça veut dire que si on n'a pas de smartphone,
Si on n'a pas de smartphone, si on a des gros doigts, c'est compliqué. Et puis j'ai fait un deuxième test. Hein. J'ai fait un deuxième test le 6 juin, place du Colonel Fabien. Donc, pour les personnes qui ne sauraient pas, c'est près de l'église Saint-Èvre. Alors, bon, là, j'ai fait gaffe quand même de ne pas me mettre en dessous des arbres, parce qu'avec les corbeaux, la voiture est
là. Oui, parce que là, tu parles bien là, de Nancy, là. Ouais. Tu parles pas de Paris, hein.
Non, c'est bien Nancy, hein. Donc, un eurodateur un peu plus récent. Donc là, je voyais bien tout ce qu'il y avait. Comme je savais déjà, j'ai repéré tout de suite le QR code. Donc, j'ai pris mon ticket. Je peux aussi rester sur place. Et là, je peux aussi rester en place pendant 44 heures, carrément.
C'est ce qui explique qu'il n'y a pas souvent de place au pied de Saint-Èvre.
Mais là, c'est uniquement pour les PMR, les 44 heures. Autrement, tu restes en place pour ce que tu as payé.
Oui, d'accord.
Là, c'est pour les PMR. Parce que les PMR, on doit avoir l'accès gratuit et l'accès facilité. Alors, sur ces deux tickets, je suis indiqué être stationné place Stanislas. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé de me stationner place Stanislas, je dois le dire. Alors, c'est peut-être en référence avec l'adresse de la mairie, qui est l'adresse de la mairie de Nancy, qui est place Stan. Je ne sais pas. Et alors, ce que je ne sais pas non plus, c'est si je me déplace pendant cette durée, hein, de mettons de 44 heures, est-ce que je dois reprendre un autre ticket sur un autre horodateur ? Ça, il faudra quand même que je me renseigne pour savoir s'il faut que je le fasse ou si mon ticket horodateur, par exemple 44 heures, il est valable sur tous les emplacements de Nancy. Je ne sais pas. Et puis, j'ai également testé les places de parking proches de la porte de la CRAF et de la Grande Rue.
T'as fait ça exprès ou...
Ben, c'est en revenant. C'était sur mon chemin. Je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter.
Voilà, on va dire à la mairie qu'il y a une dame, là, elle teste les parkings.
elle teste les parkmètres. Ben, écoute... De toute façon, voilà, je peux pas parler d'un sujet si je ne connais pas. Donc là, je me suis dit, je vais m'arrêter. Donc, c'est les fameuses places qui sont marquées en orange au sol. C'est vraiment des arrêts de très courte durée, puisque c'est proche de rue piétonne.
Oui, d'accord.
Voilà. Alors là, je peux saisir mon numéro de plaque directement sur l'horodateur. Ça doit être un horodateur nouvelle génération. Je peux le faire comme quelqu'un pourrait le faire, quelqu'un qui ne serait pas PMR. Et je reçois donc un ticket papier avec une durée maxi de stationnement de 45 minutes.
C'est pas beaucoup, hein.
C'est pas beaucoup. Il faut pas traîner. Alors, je me suis dit après, comme c'était sur l'écran, est-ce que j'ai vraiment bien ? Je retournerai le tester un autre jour que je repasserai par là, parce que je passe souvent par là, et je testerai pour vérifier si c'est bien 45 minutes ou si on y a droit à plus. Ce ticket-là, par contre, il est placé dans mon véhicule, donc il faut retourner au véhicule, bien visible de l'extérieur, quoi.
Oui, mais alors là. La voiture là, qui contrôle, elle ne va pas le voir, le ticket, là.
Ouais, mais je pense... Alors, parce que là, les voitures, elles contrôlent que les... J'ai pensé après, les voitures, elles ne contrôlent que les parkings payants. Là, ce n'est pas un parking, c'est pas
donc
des parkings payants.
Donc, ça veut dire qu'une voiture qui est garée sur un trottoir, par exemple, elle ne le contrôle pas.
Ce n'est pas la voiture qui va le contrôler.
D'accord.
Non, la voiture, là, elle contrôle que les stationnements qui sont payants. Que
oui,
ça.
Oui, parce que ça a été un petit peu mon inquiétude l'autre jour, là, quand je suis allé chez l'avocat.
Tu t'es dit,
garé.
Je me gare sur le trottoir.
Bah, je me gare sur le trottoir, comme d'habitude, dans le quartier, là, il n'y a pas de place.
Et il dit à l'antenne, comme d'habitude, qu'il se gare sur le trottoir.
Bah oui, bien sûr.
Alors, moi qui râle quand il y a des voitures sur les trottoirs qui empêchent les gens de passer.
Non, mais là, il n'y a personne qui passe, là.
Bah, c'est sûr que quand t'es là, il n'y a plus personne.
Derrière la station-service, là, à Lobo, il n'y a personne qui passe.
Alors, il y a une question quand même qui m'est venue en faisant ces tests. Moi, j'ai trouvé que les écrans d'horodateur étaient vachement hauts. Donc, je ne sais pas si les personnes en fauteuil roulant, celles qui conduisent leur véhicule, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant qu'on n'a pas le droit de conduire son véhicule personnel. Donc, est-ce qu'ils ont facilement accès aux écrans ? Il faudra que j'essaye de me renseigner par rapport à ça. Voilà, c'était...
Ouais, tu vas essayer voilà, avec un fauteuil roulant ?
Non, non, moi je l'ai fait, j'ai 10 jours dans un fauteuil roulant, cela m'a suffi, je ne remettrai mes fesses dans un fauteuil roulant que quand j'y serai obligée et pas autrement. Voilà, donc je pense que je referai un autre coup, une petite suite à ce sujet.
On va peut-être écouter Alain Chamfort maintenant.
Ouais, on va écouter. Alors, c'est toi, tu nous donnes le titre, c'est son dernier album.
Tout s'arrange à la fin ?
Ouais, tout s'arrange à la fin.
En ce moment, c'est pas la joie. Parfois la vie est brutale, les ennuis pleuvent sur moi. J'avoue, l'averse me fait mal, mais pour autant je ne perds pas confiance en ma bonne étoile. Je me dis tout s'arrange à la fin. Quand ça devient trop dur, je peux m'appuyer sur cette idée qui me rassure. Tout s'arrange à la fin, ça semble simple, et sans doute ça l'est, mais j'y crois même si c'est basé sur rien. Quand c'est trop la crise, quand mon cœur se brise, je ressors ma devise, tout s'arrange à la fin, oui tout s'arrangera, si ça ne s'arrange pas, je me dis c'est que c'est pas encore la fin. La tempête peut me secouer, la nuit peut me tourmenter. J'ai cette carte secrète à jouer, j'ai
j'ai ce refrain à chanter. Ce n'est que de la méthode couée, mais plutôt que de me lamenter, je me dis tout s'arrange à la fin. Quand ça devient trop dur, je peux m'appuyer sur cette idée qui me rassure. Tout s'arrange à la fin, ça semble simple et sans doute ça l'est, mais j'y crois même si c'est basé sur rien. Quand c'est trop la crise, quand mon cœur se brise, je ressors ma devise, tout s'arrange à la fin. Oui, tout s'arrangera, si ça ne s'arrange pas, je me dis c'est que c'est pas encore la fin. Ça devient trop dur, je peux m'appuyer sur cette idée qui me rassure. Tout s'arrange à la fin, ça semble simple et sans doute ça l'est, mais j'y crois même si c'est basé sur rien. Quand c'est trop la crise, quand mon cœur se brise, je ressors ma devise. Tout s'arrange à la fin, oui tout s'arrangera, si ça ne s'arrange pas, je me dis c'est que c'est pas. C'est pas encore la fin.
Citoyens au quotidien sur RCN
avec la CLCV de Malzéville-Saint-Max.
Alors Sylvie, qu'est-ce que tu veux nous dire maintenant ?
Alors je vais vous faire un petit point concernant notre journal Cadre de vie, puisque le dernier du numéro, nous, les adhérents viennent de le recevoir, donc c'est la revue des adhérents de la CLCV, c'est marqué dessus.
Je rappelle qu'on ne le trouve pas en commerce.
On ne le trouve pas en kiosque, on ne le trouve pas en supermarché, rien du tout, on ne le trouve qu'à la CLCV, c'est un privilège.
C'est-à-dire qu'il fait partie de l'adhésion.
Il fait partie intégrante de l'adhésion. Donc on vient de le recevoir, hein, donc voilà, pour les personnes qui regarderont sur YouTube, voilà, le voilà. Donc il y a un grand article, un grand dossier concernant notre pétition pour les APL. Donc dossier qui s'appelle Scandale APL, l'État abandonne les locataires. Il y a donc tout un dossier sur ça, et puis également la possibilité indiquée pour pouvoir dire de compléter la pétition. Donc on a même la petite carte pour pouvoir dire de renvoyer à monsieur le président de la République directement, et là on ne paye pas. Et puis il y a également donc la possibilité, il y a un QR code et on peut aller faire signer la pétition et qu'est-ce que je voulais dire ?
Bien, il faut savoir que les gens qui n'ont pas de smartphone, qui ne peuvent pas scanner le QR code.
On peut aller sur le site internet, c'est ce que je voulais dire. J'ai retrouvé ce que je voulais
et
dire.
Et puis on peut aussi venir au bureau. Au bureau, on a des cartes qu'on signe et qu'on donnera à M. Macron.
Voilà, donc c'est tout le dossier, c'est un dossier de 4 pages. Dans ce journal, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve notamment le dossier que tu as évoqué tout à l'heure concernant les incendies, on va avoir une enquête sur l'alimentation, et puis on a aussi un article sur le projet de loi logement. Alors là, je vais pas m'étendre sur le projet de loi logement, c'est pareil, on le retrouve ça sur le site internet de la CLCV quand on n'a pas accès à Cadre de vie.
Alors pour aller sur le site internet de la CLCV, il faut faire www.clcv.org.
Voilà. Donc c'est vraiment le journal Cadre de vie. Il y a vraiment plein d'articles sur les franchises médicales, tout ce qu'on doit connaître sur le crédit renouvelable, les frais de santé, les aides pour faire face. Enfin, c'est vraiment un journal très, très, très complet. Même rien que pour ça, ça vaut le coup d'être adhérent à la CLCV. Même si on le répète, hein, si on n'est pas obligé d'avoir un litige pour être adhérent à la CLCV, on peut adhérer à la CLCV sans litige, on recevra le journal Cadre de vie et en plus on soutiendra, je dirais, une noble cause qui est celle de la défense des consommateurs et des locataires.
Mais on peut aussi avoir Cadre de vie, on peut s'abonner à Cadre de vie, on n'est pas forcé d'adhérer.
Oui, mais c'est bien d'être adhérent. Moi j'aime bien les adhérents.
Mais être adhérent, c'est un vrai plus.
Voilà, c'est un vrai soutien aussi aux actions de la CLCV.
On peut dire combien ça coûte ?
De quoi l'adhésion ? L'adhésion, c'est 30 euros pour une année complète. Et puis autrement, c'est vrai que le prix au numéro du journal Cadre de Vie, c'est 3,80. Donc voilà, par rapport à un abonnement, il vaut mieux être adhérent, c'est beaucoup mieux.
C'est mieux.
Voilà, c'est beaucoup mieux. Oui, parce que les quatre numéros, c'est 15 euros. Donc c'est un petit peu moins cher que 4 fois 3,80. Voilà.
Alors maintenant, on va peut-être parler de la CLCV.
Ouais, on va parler de la CLCV, de notre CLCV local, donner nos coordonnées.
Donner les coordonnées, je vais d'abord dire que nous avons des jours de permanence sans rendez-vous.
Voilà.
Alors, c'est le mardi de 9h30 à midi et de 14h30 à 17h, le mercredi de 14h30 à 17h et le jeudi de 9h30 à midi et de 14h30 à 17h. Ça, c'est les jours de permanence sans rendez-vous.
Sans rendez-vous.
Donc là, pour ça... on peut venir, c'est au 60 rue du Colonel Drian, c'est dans le bâtiment Franklin, et c'est à Malzéville, 54 220. Pour arriver jusque-là, il faut prendre le bus, hein.
Ouais,
c'est la ligne 13, et il faut descendre à l'arrêt Alexandre Ier, et surtout prendre la direction de Demartemont.
Ouais,
parce que si on va dans l'autre sens, on va trop loin.
On va trop loin, on va de Houdemont. Mais on peut aussi venir en voiture.
Il y a du parking gratuit.
Voilà, il y a du parking gratuit.
Et en journée, il y a de la place.
Voilà, en journée, il y a beaucoup de place. Il n'y a aucune difficulté pour venir. Et puis, c'est pareil. Si jamais on vient en trottinette, on peut aussi rentrer la trottinette dans les locaux de la CLCV.
On peut rentrer, exactement. Alors, pour prendre rendez-vous, parce qu'on a aussi des permanences sur rendez-vous.
Voilà, il y a des personnes en plus qui ont besoin d'un rendez-vous, qui veulent être tranquilles, qui ont des choses un peu plus compliquées à nous expliquer. Donc on donne des rendez-vous.
Alors, pour cela, on peut prendre rendez-vous par téléphone au 03 83 29 10 96. On peut aussi le faire par email sur malzéville@clcv.org. Et puis, t'as la page Facebook.
Ouais, alors il y a la page Facebook qui s'appelle tout simplement CLCV Malzéville Saint-Max. Donc, comme je le dis à chaque fois, sur cette page-là, elle est voulue pour partager de l'information à destination des locataires, des consommateurs, des usagers. On va partager, par exemple, certaines informations de notre confédération. On va partager aussi de l'information, par exemple, de la DGCCRF, de l'INC. Enfin, tout ce que nous estimons être important d'être partagé pour des questions du quotidien. Sur cette page Facebook, on va également partager les actions qu'on fait. Donc, on fait généralement des photos. On communique aussi sur les réunions auxquelles on se rend. Parce que c'est important aussi que les consommateurs, les locataires sachent qu'on a des réunions de représentation. Moi, par exemple, l'autre jour, j'ai partagé, quand j'étais à la conférence intercommunale du logement à la métropole du Grand Nancy, c'est important que les gens sachent qu'on les représente dans ces instances. Donc, on partage ça. Qu'est-ce qu'on partage encore ? On va par exemple partager nos dates de vacances. Enfin, tout ce qui permet d'intéresser vraiment les gens localement.
Hein. On informe aussi sur des choses qui viennent d'autres CLCV. Hein.
Voilà, on partage, on commune. Voilà, on partage.
Quand même pas oublier qu'il y a 380... CLCV sur le territoire de français. Hein.
Voilà, donc quand une CLCV a fait une belle communication, on partage, parce qu'on aime bien aussi que nos publications qui ont été faites localement par la CLCV Malzéville-Saint-Max, on apprécie quand elles sont partagées, donc on fait de même partager les publications des autres. Et puis la page Facebook, c'est aussi un moyen aussi de pouvoir nous contacter. Tout à l'heure, tu parlais de nous contacter par téléphone, par mail, et on peut aussi nous contacter par Messenger.
Absolument.
Là, on peut nous poser également des questions, demander un rendez-vous. Oui. Et c'est le même principe. Laissez vos coordonnées pour qu'on puisse vous rappeler.
Le plus important, quand les gens téléphonent ou qu'ils envoient des mails, c'est quand même de donner leurs coordonnées.
Voilà.
Si vous avez un problème et puis que vous envoyez un mail, il faut aussi prévoir... si vous avez des pièces à nous joindre pour votre dossier,
voilà.
Donc voilà, il faut...
un exemple tout simple, l'autre jour, une personne a envoyé un mail sur l'adresse mail de la CLCV, et en me marquant, pouvez-vous me donner un rendez-vous ? Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas si c'était quel type de problème. Je lui ai demandé d'avoir... j'avais rien du tout, à part son adresse mail. Je lui ai demandé à minima si elle pouvait me communiquer son numéro de téléphone. Et puis me dire aussi, parce que je me suis dit, si c'est un problème avec un bailleur, de savoir quel bailleur c'était et quel endroit c'était. Parce que, par exemple, on a aussi d'autres CLCV, même sur la métropole, et c'est peut-être pas l'intérêt pour la personne de venir jusque Malzéville si c'est une autre CLCV qui est plus proche, etc. quoi. Bon, j'ai juste récupéré un numéro de téléphone pour pouvoir dire de l'appeler. Mais c'est fou quand même, parce qu'on pourrait penser que les personnes vont donner quand même un minimum de biscuits pour qu'on puisse faire quelque chose. Ouais. Parce que je ne me lève pas le matin avec ma boule de cristal. Ça, je n'ai pas été livré avec. Donc, je ne peux pas deviner ce que veulent les gens.
Oui, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un message sur le répondeur. La personne m'a expliqué tout son problème, mais m'a pas dit du tout où elle était.
Voilà.
Elle termine en disant, j'attends que vous me rappeliez.
Voilà.
Mais je ne peux pas la rappeler.
Parce que voilà, c'est vrai que nous, notre téléphone, quand on laisse un message dessus, on ne récupère pas le numéro de la personne. Voilà. Donc c'est important. Voilà, on peut donc facilement nous contacter. Là, sur les vacances qui arrivent dans quelques semaines, on reste ouvert une bonne partie des vacances. Même si on a plus de perte, quelquefois, on ferme les permanences sans rendez-vous. Mais s'il y a une urgence ou quoi que ce soit, on conserve quand même la possibilité pour les personnes de venir nous rencontrer sur rendez-vous. Mais c'est vrai qu'on est comme le tout à chacun, on est en tant que bénévole, on apprécie des fois un peu de se reposer.
L'émission va se terminer bientôt, Madame la Présidente, et j'aurais aimé quand même que vous parliez...
Tu veux que je parle de quoi ?
De quoi ? Eh bien, des bénévoles, mais surtout du fait qu'on recherche un bénévole...
un bénévole spécifique. La spécificité qu'on recherche et qu'on recherche en urgent, c'est un bénévole pour faire la trésorerie et aussi ce qui va avec la comptabilité, c'est-à-dire saisir les opérations comptables, faire le rapprochement avec les relevés de compte de la banque, etc. Et puis également, je dirais aussi, pouvoir aussi travailler à la demande de subvention. Alors ça, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Moi, ça m'est arrivé de le faire seul.
Et puis qui ne fera pas tout de suite non plus.
Voilà. Et c'est vraiment de pouvoir faire un travail en binôme. Parce que président et trésorier, ça doit fonctionner ensemble, quoi. C'est l'argent et les actions à mener. C'est pas un qui traite de l'argent d'un côté et l'autre les actions ou... les rendez-vous à mener, etc. C'est vraiment un travail en commun, quoi.
Oui, c'est un trésorier qu'on cherche. On cherche pas un comptable.
Voilà, c'est pas un comptable. Il y aura de la comptabilité, oui, mais forcément, c'est un trésorier, quoi. Il y a vraiment les deux casquettes, enfin les deux travail à faire. Et mais c'est urgent parce qu'on en a plus. Donc on préférerait trouver un bénévole plutôt que de devoir passer par une société. Qui nous ferait déjà
un cabinet comptable
qui nous ferait d'abord que la comptabilité, mais ça de toute façon on est obligé. Donc
le
après ça un
comptable,
coût.
Le cabinet comptable, lui, il s'occupe vraiment que de la comptabilité, voilà. Alors que le trésorier, il a un rôle politique
dans
l'association.
Voilà, il a une vision politique de la chose. Que n'a pas le cabinet comptable,
le cabinet
parce que c'est
comptable,
pas son taf.
Le cabinet
comptable
ne va pas participer à une demande de subvention.
Non, il fera l'analyse peut-être des comptes, etc. Mais ça va s'arrêter là. Quoi. Et en plus, c'est un coût. Et sachant que l'argent est toujours difficile à trouver quand on est une association, il vaut mieux l'utiliser à bon escient. Et si on peut trouver un bénévole plutôt que d'avoir à donner de l'argent à un cabinet comptable, ce serait franchement très très bien.
Dans tous les cas, nous cherchons des bénévoles.
On cherche toujours des bénévoles. On cherche des bénévoles pour la trésorerie. Mais on cherche également des bénévoles pour nos bars à eau. On est sollicité pour plus de bars à eau, pour plus d'animation, mais par contre, là, c'est pareil. Il faut aussi du monde. Il faut du monde pour installer le matériel, c'est-à-dire le barnum, etc.
Ça ne demande pas des compétences particulières.
Le bar à eau, non.
Non, mais quel que soit, de toute façon, un bénévole qui vient à la CLCV, on lui apprendra.
Moi, je dis toujours, quand je suis arrivée à la CLCV, je ne savais rien de ce qui faisait la CLCV. Quoi. Je suis venue pour une action... Et après, j'ai appris. Les bars à eau, c'est pareil. Je ne savais pas. Quand j'ai commencé mon premier bar à eau, je ne savais pas ce que c'était. On était loin d'avoir le matériel et d'avoir tous les outils de com, etc., dont on peut bénéficier aujourd'hui. Et pour autant, j'estime que je me débrouille pas trop mal sur...
On cherche des bénévoles aussi compétents en communication.
Voilà, compétents en communication, que ce soit pour animer des réseaux sociaux... que ce soit également, et même pour de la com, que ce soit aussi pour participer à ces émissions-là. Citoyens au quotidien, on le fait à deux depuis un certain temps. Et c'est vrai que ce serait bien de pouvoir avoir une personne ou deux personnes supplémentaires pour proposer des chroniques. Et puis, les rédiger, les animer, etc. Comme moi aussi, j'ai appris à le faire, parce que ça fait depuis octobre 2017, et avant, je ne connaissais pas du tout. Quoi. Donc voilà, ça, c'est notre recherche de bénévolat. Et puis, bah, voilà, il ne faut pas hésiter, on peut nous appeler, pareil. On peut aussi nous contacter pour proposer le bénévolat. Quoi.
Merci. Voilà. On va dire à bientôt.
On va dire à bientôt à nos auditeurs. On dit à bientôt aussi à Jean-Luc. À bientôt, Christian.
Merci.
À bientôt.